Trainville PM.
Bonjour tout le monde, merci d'être là. Alors, opération qui s'appelle l'opération Onirique, c'est mené par la Division des enquêtes sur la cybercriminalité. Et ça, c'est rattaché à la Division des enquêtes sur l'exploitation sexuelle des enfants sur Internet. Hein, c'est une division donc de la Sûreté du Québec qui poursuivent donc cette opération qui a commencé plus tôt cette semaine. Alors, depuis mardi, les agents de la Sûreté ont épinglé 11 personnes donc qui vont être accusées ou qui sont accusées de possession de matériel pornographique juvénile. Et pour nous en parler, Julie-Christine Gagnon, notre journaliste, est en studio. Bonjour.
Bonjour Bernard.
Alors, faites-nous le portrait donc des dernières informations de cette opération.
Oui, donc on parle d'une quarantaine d'enquêteurs là, qui, comme vous le disiez, là, depuis 3 jours, là, mènent une opération. On a permis d'arrêter là, jusqu'ici 11 personnes soupçonnées de crimes en matière de pornographie juvénile. Plusieurs chefs d'accusation, possession, distribution de pornographie juvénile qui devraient être portés contre eux. Certaines de ces personnes ont déjà comparu, d'autres vont comparaître aujourd'hui. C'est la GRC, en fait, qui a détecté les contrevenants, qui a contacté la division là, de la Sûreté du Québec. Il y a des policiers de Québec, de Mont-Tremblant aussi, qui ont participé à cette opération-là. Les suspects proviennent vraiment de partout au Québec. On parle de Saint-Georges-de-Beauce, de Mont-Tremblant, de Valmorin, de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, de Saint-Césaire, Donnacona, Matane, Granby.
Donc, est-ce que c'est un réseau? Est-ce qu'ils sont liés entre eux? On le sait-tu?
Non, ils ne sont pas liés entre eux. Le seul lien qui les lie,
oui,
c'est vraiment que la GRC a détecté, donc, les a détectés sur Internet. Mais sinon, aucun lien. On ne parle pas là, d'un groupe qu'on a déjà vu là,
oui,
qui s'échangeait du matériel.
Exact.
Ce n'est pas ça du tout.
Okay.
La direction des enquêtes criminelles de la Sûreté du Québec, qui regroupe là, des experts en matière de cybercriminalité, d'exploitation des enfants, a depuis 2012 arrêté 500 personnes, identifié une centaine de victimes. Il semble que le nombre d'arrestations, en tout cas pour ce type de crime-là,
oui,
augmente d'année en année. Il faut dire qu'il y a des équipes qui travaillent sur Internet, des,
oui,
équipes qui sont formées aussi sur le terrain. Mais aussi, Claude Denis de la Sûreté du Québec me disait aujourd'hui, c'est important que les gens communiquent avec nous, dénoncent. Je vous laisse entendre Claude Denis.
Les gens peuvent consulter sur Internet le site qui est super bien fait, qui s'intitule cyberaide.ca. Ou encore, les gens peuvent, en toute confidentialité, contacter notre centrale d'information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264.
Alors, on devrait faire le bilan. La Sûreté du Québec devrait faire le bilan un peu plus tard. Aujourd'hui, on aura le nom de ces individus-là qui ont été arrêtés, de ces 11 personnes-là qui ont été arrêtées depuis 3 jours. Mais c'est... Faut dénoncer. On en voit de plus en plus. J'ai en tête Simon Drouin, un peu pas plus tard que la semaine dernière, là, qui a été arrêté. 87 chefs d'accusation, 70 victimes.
C'est incroyable.
Ça, oui,
c'est des enfants de chez nous, là.
C'est des enfants de chez nous. Alors, je pense que si vous avez vu des choses, pensez avoir vu des choses, n'hésitez pas, contactez les services de police, allez sur le site Internet cyberaide.ca et c'est comme ça qu'on va... Parce que ça frappe aussi, là, les gens de la Sûreté du Québec, Claude Denis me disait que le fait des arrêter comme ça en groupe, on espère que ça va envoyer un message aux individus qui sont derrière leur ordinateur et qui pensent pas peut-être se faire attraper. Là.
Peut-être ça peut les inciter à aller chercher de l'aide. Hein?
Encore, oui, hein? Bonne,
non,
idée.
Julie-Christine Gagnon, merci beaucoup.
Ça me fait plaisir.
Et on va aller rejoindre maintenant René Morin. René Morin, il travaille avec le Centre canadien de protection de l'enfance. Bonjour, M. Morin.
Bonjour.
M. Morin, première question, là. Est-ce qu'il y a plus de cyberprédateurs, de cyberpédophiles qu'il y en avait auparavant?
C'est une excellente question. En fait, c'est très difficile d'y répondre. Des cyberprédateurs, des gens qui ont des penchants pédophiles, il y en a toujours eu, il y en aura probablement toujours. Maintenant, à la vue de toutes ces arrestations, là, au cours des derniers jours, on peut se demander effectivement s'il y en a plus qu'avant. Je pense que la réalité, c'est qu'il y a plus de signalement qui se fait. Je pense que les gens sont beaucoup plus vigilants maintenant que jamais. Et tous ces signalements-là, ne font que alimenter, si vous voulez, les services services de police, les enquêteurs en information qui finissent par mener à des arrestations. Donc, je pense que c'est plutôt de ce côté-là qu'il faut regarder. En revanche, ce qui a peut-être changé par rapport à auparavant, c'est que à une autre époque, avant l'ère numérique, si vous voulez,
oui.
La pornographie juvénile se faisait, s'échangeait clandestinement, ça se passait sous le manteau. C'était très difficile pour les gens qui avaient des penchants pédophiles de sortir de la clandestinité. Mm. Maintenant, avec Internet, ils peuvent se regrouper en réseau, s'entraider, s'échanger des informations, et tout ça finit par créer une certaine banalisation de la gravité de l'acte entre eux.
Oui. Est-ce que... Comment on devient pédophile? Est-ce qu'on le sait, ça? Est-ce que la recherche nous donne des pistes sur les deux ou trois portraits robots, là, mettons, là, les deux ou trois types de pédophiles qu'on retrouve dans notre société?
Ben, écoutez, c'est une question qui, elle aussi, s'avère très complexe, là. Évidemment, ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a pas de profil type du prédateur sexuel. Si vous regardez un petit peu là, les arrestations, qui est-ce qu'on arrête exactement? Mais vous allez remarquer qu'on arrête des entraîneurs sportifs, des religieux, des enseignants, des bénévoles qui travaillent dans des organisations qui servent une clientèle d'enfants. Donc, il n'y a pas vraiment on arrête des gens de tous les milieux, de tous les horizons, là.
Ça, c'est vraiment frappant, hein? C'est vraiment frappant, René Morin. C'est vraiment pas une affaire de classe ou une affaire de milieu de milieu d'origine. Tu sais, on peut pas dire là que c'est un type de crime ou un type de criminel qui provient d'un certain type de profil sociodémographique. On en retrouve vraiment dans toutes les couches de la société.
Vous avez tout à fait raison, dans toutes les couches de la société, d'où la difficulté d'établir un profil type qui pourrait peut-être aider les forces de l'ordre à intervenir de façon plus ciblée auprès de certains groupes. On peut pas vraiment procéder de cette façon-là, étant donné la diversité des individus qui se font arrêter dans ce genre de situation-là, malheureusement.
Mais si vous me permettez de vous interrompre, ça nous arrive quand même assez souvent de lire ou d'entendre des témoignages de pédophiles, donc, qui se retrouvent devant les tribunaux, mettons. Et je pense pas me tromper si je dis que, pour un bon nombre d'entre eux, ils ont été eux-mêmes victimes d'agressions sexuelles quand ils étaient enfants. Est-ce que ça, c'est pas une piste?
En réalité, c'est un mythe.
Il y a, ah oui?
En
ah
effet,
bon.
Oui, tout à fait. Il y a plusieurs... il n'est pas rare que dans un tribunal, dans le processus judiciaire, des gens qui se sont fait prendre pour des infractions de pornographie juvénile ou d'abus pédosexuels vont déclarer avoir été eux-mêmes victimes de ces choses-là à leur enfance. Mais c'est pas, on peut pas faire de généralisation là-dessus. C'est pas parce que vous avez été victime d'abus pédosexuels à l'enfance que vous deviendrez inévitablement un prédateur sexuel à votre tour quand vous serez adulte. Il n'y a pas vraiment de corrélation à faire dans ce domaine-là. Je pense qu'on est plus dans le domaine de épisodique que d'autres choses ici, là.
Mais c'est une déviance qui s'acquiert, on s'entend, là. On ne naît pas pédophile. Il n'y a aucune recherche qui conclut qu'on naît avec cette pulsion sexuelle, cette attirance pour les enfants. Est-ce que je me trompe?
En fait, je pourrais peut-être faire allusion à un témoignage que j'avais déjà entendu de la part d'un enquêteur américain dans un congrès auquel j'avais assisté l'an dernier. C'était particulièrement intéressant. En fait, vous aviez justement un prédateur sexuel notoire qui s'était fait prendre, et dans son témoignage, il avait dit à l'enquêteur, moi, je m'intéresse, j'ai un intérêt sexuel pour les enfants, et on sait que l'intérêt sexuel qu'on a pour des personnes autres va souvent s'aligner avec l'âge qu'on a. Quand on a 16 ans, on s'intéresse à des personnes de 16 ans. Quand on a 20 ans, on s'intéresse à des personnes de 20 ans. Et quand on a 40 ans, normalement, on s'intéresse aussi toujours à des personnes de notre âge comme partenaires sexuels. Maintenant, ce que cet individu-là avait révélé à l'enquêteur, c'était de dire, écoutez, moi, à 11 ans, j'ai arrêté d'évoluer dans ce sens-là. Autrement dit, vient un temps où cette évolution-là naturelle de nos préférences sexuelles s'arrête et on peut rester au même niveau pendant longtemps. Et c'est peut-être ce qui est en train de se produire là chez les prédateurs sexuels pour qui la préférence pour un certain groupe d'âge reste bloquée, là, je dirais, à un certain âge.
Ce serait comme le résultat, dans ce cas-ci, si on prend cette hypothèse-là, c'est comme si l'évolution dans ta maturité sexuelle s'arrêtait à un certain âge, hein?
C'est souvent ça qui se produit, effectivement, oui.
Bon. Les personnes qui ont cette attirance pour les enfants, OK, mettons qu'ils sont sur Internet et tout ça, est-ce que cette attirance-là t'amène nécessairement à poser l'acte, à vouloir passer à l'acte?
Il y a une certaine escalade qui se fait. Tu sais, ce qu'on observe, c'est qu'évidemment, il y a beaucoup de matériel en circulation sur Internet. Il y a beaucoup de pornographie légale sur Internet, et c'est souvent à travers la pornographie légale que les gens vont avoir leur premier contact avec ce genre de matériel-là. À force de consommer ce matériel-là, on en vient à préciser, si je puis dire, nos préférences. On va rechercher du matériel qui touche, par exemple, différentes races, une race plutôt qu'une autre, un sexe plutôt qu'une autre, un type de scène plutôt qu'une autre, un groupe d'âge plutôt qu'un autre. Et c'est là que, progressivement, le prédateur sexuel ou le pédoprédateur, appelez-le comme vous voulez, va cheminer là vers des groupes d'âge de plus en plus jeunes. Évidemment, il y a une certaine répulsion naturelle qu'on peut avoir à vouloir consommer ce genre de contenu-là au début, partant du principe qu'on sait très bien que c'est illégal. Mais lorsqu'on s'en rapproche, petit à petit, on lève tranquillement nos inhibitions. Et à partir du moment où vous avez franchi le pas pour une première fois, ben, la fois suivante, quand l'occasion se présente, vous vous dites, ben, je l'ai déjà fait une fois.
C'est ça.
Pourquoi je ne le ferai pas une deuxième fois?
Je ne me suis pas fait attraper.
Exactement. Et là, ben, vous consommez des images pendant un certain temps et du coup, l'envie de passer à l'acte de façon plus concrète, au sens physique du terme, je dirais, commence à se manifester. Et l'intérêt de la lutte contre la diffusion du matériel pornographique, pédopornographique sur Internet, et justement là, parce qu'on a constaté que dans bien des cas, lorsque les gens sont arrêtés pour des abus sexuels physiques à l'encontre des enfants, ben souvent, ils ont consommé, c'est eux-mêmes des consommateurs de pornographie juvénile sous forme d'images. Ces images-là peuvent conduire à un passage à l'acte. Là.
D'ailleurs, vous nous parlez d'images, il y a un nouveau système qui existe, n'est-ce pas? Qui est utilisé pour lutter justement contre les prédateurs sexuels. C'est quoi? Comment ça s'appelle? Arachnid, c'est ça?
Ça s'appelle Arachnid, projet Arachnid. Et lorsqu'on parle du problème, c'est intéressant de parler aussi des solutions. Et
ouais.
Arachnid, c'en est une. En fait, c'est une technologie qui a été développée chez nous, au Centre canadien de protection de l'enfance, par nos experts à cyberaide.ca. Essentiellement, comment ça fonctionne, c'est que, bon, évidemment, il y a beaucoup d'images de pornographie juvénile qui sont en circulation sur Internet et qui sont connues des services policiers parce qu'elles ont déjà été trouvées dans des perquisitions. Elles sont fichées dans leur base de données. Donc, Arachnid exploite le contenu des bases de données, des services de police, de la base de données cyberaide.ca, met tout ça en commun et se promène sur Internet à la recherche de ces images-là. Avec un taux d'efficacité extrêmement intéressant. Écoutez, au cours des 18 derniers mois, là, Arachnid a envoyé plus de 530 000 avis à des hébergeurs pour leur signaler la présence de matériel illégal sur leur serveur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où les hébergeurs reçoivent ces avis-là qui sont générés automatiquement, on obtient un taux de retrait là de l'ordre de 2-3 jours et de l'ordre d'à peu près 100%. Là. Donc, c'est extrêmement efficace. C'est une solution qui s'avère très, très, très prometteuse pour nettoyer Internet de ce matériel-là qui ne devrait pas s'y trouver.
OK. Donc, cet outil-là ne sert pas à envoyer les policiers chez quelqu'un où on aurait retrouvé des images de pédophilie, là. Parce que dans certains cas, les gens hébergent des images sans le savoir? Est-ce que c'est ça?
Oui, exactement. Si vous êtes un grand hébergeur avec plusieurs dizaines de milliers d'abonnés, comme c'est souvent le cas, vous pouvez difficilement avoir un œil sur ce que chacun de vos abonnés va mettre sur son espace web. Mais cette technologie-là va, à partir d'empreintes numériques, repérer la présence d'images connues sur les serveurs et donc prévenir les hébergeurs de la présence de ce matériel-là à des endroits bien, bien, bien spécifiques avec une demande de retrait. Ça marche marche très, très bien. C'est vraiment, on est très, très enthousiaste là, avec toutes les perspectives que cette technologie-là peut apporter. Et ça génère déjà pas mal d'intérêt. On a établi des partenariats avec nos partenaires aux États-Unis, au Royaume-Uni. Il y a même le Foreign Office au Royaume-Uni qui a investi de l'argent là-dedans. Donc, ça vous démontre là, tout l'intérêt et toute la crédibilité qu'il y a autour de cette solution-là. Mais au final, on a beau avoir toutes les lois qu'on veut, toutes les technologies qu'on veut, on n'arrivera pas à lutter efficacement contre le problème si on ne fait pas en amont beaucoup plus de prévention qu'on en fait en ce moment.
Très bien, René Morin. Porte-parole francophone du Centre canadien de protection de l'enfance. Je rappelle le site cyberaide.ca. Merci, M. Morin.
Merci à vous.
Bonne journée. On s'arrête. Au retour, le parascolaire. Écoutez, c'est quand même quelque chose. Hein? Les élèves à risque de décrocher ont 70 % moins de chances de décrocher s'ils participent à une activité parascolaire. C'est extraordinaire. Et puis, on va en parler après la pause, puis on va vous demander de nous appeler pour nous dire est-ce que vous dirigez vos enfants vers le parascolaire ou est-ce que vous en avez vous-même bénéficié?